Vous écoutez
RMC. RMC Motors, Julien Pichenet, Jean Lecroix.
Jusqu'à 14h, Motors, comme chaque dimanche. Merci d'être avec nous. Je vais accueillir tout de suite, sans plus tarder, Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Julien, bonjour à tous.
T'as bien garé ta moto? Parce qu'il y avait un petit problème de moto. Il y a le Tour de France qui passe à côté de la radio.
Je vais la déplacer dans un instant, juste après Motors.
Tu l'as pas encore fait?
Pas encore.
Le Tour de France passe juste après. Et je crois qu'Adrien Tambay est dans le même cas.
Ouais, oui. Moi non plus. Mon scooter est au parking, il va falloir le déplacer juste après. Bouger.
Ah, faites attention, parce que quand le Tour va passer en fin d'après-midi, on pourra plus trop circuler dans le quartier d'RMC. Il y a Lucas Vinois qui sera également avec nous, il est à Hockenheim pour RMC ce week-end. On va évidemment parler de ce Grand Prix d'Allemagne, de ce 11e Grand Prix de la saison. Lewis Hamilton partira en pôle. Il est malade, Lewis Hamilton, un petit virus à la gorge, mais
ça n'empêche pas d'aller vite.
Prendre la pôle. Effectivement, il pleut aussi là-bas, on va voir ça avec Lucas Vinois dans un instant, mais ça ne gêne pas non plus. Bon, favori sur le papier Hamilton, mais attention à Leclerc, attention à Verstappen, attention pourquoi pas aussi à Gasly, qui est quatrième sur la grille de départ, on verra ça dans un instant. Mais pour l'heure, il y a un événement. On va avoir le président de la Fédération Française de Motocyclisme, Jacques Boll, avec nous, et la star de la MotoGP, Fabio Quartararo, avec nous dans Motors aujourd'hui. C'est parti.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droite ligne, droite 120.
Le briefing.
Jacques Boll, président de la Fédération Française de Motocyclisme depuis 11 ans maintenant, est avec nous dans Motors. Bonjour Jacques, et merci d'être avec nous sur RMC.
Bonjour à tous.
Salut Jacques, merci d'être avec nous.
Je crois que vous vous connaissez très bien tous les deux,
oui.
Jacques Boll et Jean-Luc Roy. Je ne fais pas les présentations. Jacques Boll, vous avez été cinquième du championnat du monde de vitesse au début des années 80. En 81, vous avez remporté le Grand Prix de Silverstone en 1983 et vous êtes président de la fédération depuis 2008. Vous avez été réélu en 2012 et 2016. C'est votre dernier mandat ou vous envisagez toujours d'arrêter en 2020 ou vous pouvez encore revenir sur votre décision?
Ah ben non, je ne peux pas revenir sur ma décision puisque les statuts de la fédération ne permettent pas de faire plus de 3 mandats.
Comme
donc
ça, c'est
ce sera mon troisième et dernier mandat.
Donc encore un an à ce poste, Jacques. On va parler tout à l'heure avec lui de Fabio Quartararo parce qu'on l'aura en ligne juste après vous. C'est vrai qu'il anime vraiment cette saison de MotoGP, hein, Jean-Luc, et on imagine que Jacques Boll est ravi des résultats de Fabio Quartararo, un jeune Français en MotoGP qui cartonne. On en avait besoin peut-être.
On en avait besoin, effectivement. Alors on avait déjà un pilote et on ne l'oubliera pas, on en parlera avec Jacques dans un instant, Johann Zarco, bien sûr, qui n'est pas devenu un mauvais pilote, loin s'en faut, d'une année sur l'autre, mais c'est vrai Jacques qu'on va peut-être commencer effectivement cet entretien avec toi par parler de cette réussite exceptionnelle de Fabio, qui, moi, c'est peut-être ce qui m'impressionne le plus, au-delà des résultats de ces deux podiums, de ces pôles, c'est qu'il commet très peu d'erreurs, hein. Je crois que c'est quasiment la première qu'il a commis lors du dernier Grand Prix.
Oui, tout à fait. C'est la première erreur ou faute de cette année. Mais il faut se souvenir, hein, bon, aujourd'hui, tout le monde est vraiment très surpris des performances de Fabio. Souvenons-nous, lorsqu'il est arrivé en Grand Prix, c'est il y a quelques années maintenant, il avait tout de suite vraiment très performé. Il avait impressionné tout le monde. C'était en Moto 3. Bon, il y a eu quelques années de passage à vide ensuite, mais aujourd'hui, il est revenu à son niveau. C'est un garçon qui a un énorme potentiel et ça, nous, on en a toujours persuadé.
Eh oui, parce que, justement, on insiste aussi là-dessus, la fédération a beaucoup fait pour aider à l'ascension de ces jeunes pilotes français en Grand Prix, c'est pas évident du tout. D'ailleurs, on va en parler juste après, Jacques, tu mènes une action et tu as reconstitué l'équipe de France, justement, pour amener d'autres pilotes au niveau des Grands Prix.
Oui, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans le passé, avec Régis Laconi, Olivier Jacques, Sylvain Guintoli. Aujourd'hui, on a essayé de relancer ça, parce que, bon, force est de constater que si on a deux pilotes de très haut niveau en MotoGP. On en a même trois qui ont marqué des points cette année, parce qu'il ne faut pas oublier Sylvain Guintoli. Par contre, en Moto2, en Moto3, il y a un trou aujourd'hui. Et donc, on a souhaité, avec Claude Michi, essayer de faire en sorte de ramener des jeunes garçons en Grand Prix, en Moto3 notamment, pour assurer la relève des années 2022-2024.
Et oui, tu as raison de le souligner. Il ne faut surtout pas oublier Claude dans cette aventure, l'organisateur du Grand Prix de France Moto au Mans, avec le succès que l'on sait. Alors Jacques, en tant que président évidemment de la Fédération française et membre de la Fédération internationale, tu ne peux que te réjouir de voir le Grand Prix de France qui lui n'a jamais quitté le calendrier, hein, à l'inverse du Grand Prix de Formule 1, être l'un des plus fréquentés au monde et auquel on a décerné, d'ailleurs la Fédération internationale et la Dorna ont décerné des félicitations.
Oui, mais c'est un peu paradoxal. Alors que la moto a du mal à être très présente dans les grands médias, eh bien aujourd'hui, on constate que c'est l'une des manifestations entrées payantes qui recueille le plus de public, le plus de spectateurs. Il y a peu de manifestations qui ont plus de 100 000 spectateurs en France, hein, tous sports confondus. Donc ça prouve que les sports mécaniques et le sport moto plaisent toujours aux Français.
Jacques, un autre aspect de ton travail à la Fédération, et malheureusement je t'ai entendu dire à plusieurs reprises lors de la conférence de presse de fin d'année que tu es juriste, et malheureusement tu dois le devenir de plus en plus, parce que c'est vrai que se battre pour la moto en France, c'est compliqué, peut-être plus que dans d'autres pays.
Oui, c'est compliqué. Alors, plus que dans d'autres pays, j'en suis pas sûr, parce qu'il y a des pays où il y a quasiment plus de sport moto. Pensons, par exemple, aux pays scandinaves, hein, où ils ont été totalement écartés aujourd'hui. Aujourd'hui, faire du sport moto en Suède, par exemple, c'est très, très difficile. Alors, en France, on peut encore en faire, mais il est vrai que c'est de plus en plus délicat. Aujourd'hui, ouvrir ou créer un nouveau circuit de motocross, par exemple, c'est extrêmement difficile.
Alors, tu parlais de motocross. La fédération, évidemment, est présente dans les autres disciplines du sport moto, et notamment, tu t'es lancé, vous êtes lancé avec la fédération depuis quelques années dans la reprise de ces circuits de motocross en France. Il faut rappeler que le réseau est très dense pour les sauver, justement, parce qu'ils étaient menacés également.
Oui, c'est une démarche de sauvegarde. Lorsqu'un circuit risque de disparaître, parce que, par exemple, le propriétaire est décédé et les héritiers veulent s'en séparer, eh bien la fédération se substitue en fait au précédent propriétaire et rachète l'équipement pour le laisser à disposition du club local, qui souvent n'a pas les moyens lui-même de racheter le site.
Et puis avant de revenir au sport et à Fabio et Johan, une autre question peut-être, Jacques, sur l'aspect justement assurance, etc., couverture. Tu nous avais signalé également depuis quelque temps les difficultés que les organisateurs pouvaient rencontrer pour justement assumer cette couverture sur ce plan-là, sur le plan des assurances. Ça va, ça s'est un petit peu arrangé?
Non, pas complètement. Le problème est toujours là. Vous savez, la jurisprudence a changé. Aujourd'hui, la théorie du risque accepté est en passe de disparaître. Et donc, ça conduira donc les assureurs à couvrir un nombre de sinistres beaucoup, beaucoup plus important. Et ça risque de mettre à mal l'équilibre économique de la couverture de ces manifestations. Donc, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Aujourd'hui, grâce au travail de la fédération, on a réussi à faire en sorte que les épreuves soient toujours assurables aujourd'hui. Mais je suis pas totalement certain que ce soit encore le cas dans 5 ou dans 10 ans.
Ah, et l'un de tes objectifs principaux, justement, c'est d'assurer la situation la plus saine possible à ce point de vue-là, avec ce que tu peux faire. On revient au sport, si tu veux bien. On va parler de Johan Zarco, justement, maintenant. Johan qui a été double champion du monde en Moto2, il faut le rappeler, 2 années consécutives, ce qui ne s'était jamais produit. Alors, on est tous un peu consternés, hein, par ce qui lui arrive là avec la KTM d'usine. Je présume que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui. On l'avait vu également lors du Grand Prix de France. Qu'est-ce qui lui arrive, toi, en tant que champion, en tant que pilote, comment tu peux expliquer ça? On sait qu'en sport moto, la confiance dans la machine, c'est vraiment la clé du succès.
Bah, je crois que tu as tout dit, hein. La confiance en la machine. Aujourd'hui, bon, visiblement, Johan n'a pas confiance dans sa moto, à tort ou à raison, mais en tout cas, il n'a pas confiance dans sa moto, et il perd ses moyens. Voilà, il n'a peut-être plus non plus envie de se battre et de prendre des risques, parce qu'il tombe quand même beaucoup, hein. Donc, aujourd'hui, il est peut-être un peu refroidi, mais le potentiel est toujours là. Moi, un garçon qui a été à très très haut niveau, et oui, c'est le cas pour Johan, et a toujours le potentiel. Si demain, il a de nouveau une bonne moto, je suis persuadé qu'on le retrouvera aux avant-postes.
Ah oui, c'est une évidence, Jacques. Et tiens, un pilote qui est aux avant-postes, ben il est avec nous dans Motors.
Ah oui,
il est là, Fabio Quartararo.
Bonjour Fabio.
Bonjour.
Ah, merci d'être avec nous dans Motors sur RMC. On est vraiment ravis, hein. C'est un événement. Jean-Luc, on a plein de questions à poser à Fabio, mais peut-être que
Jacques en a
que
peut-être
une. Vous voudrez lui dire bonjour. Bah oui. Vous pouvez vous.
Bonjour,
vous pouvez
Fabio. Bah, écoute, oui, moi, tout simplement, est-ce que, bon, la question que je vais te poser, c'est une question que tout le monde se pose dans l'Hexagone. Est-ce que tu penses sérieusement, réellement, que tu as des chances de remporter un Grand Prix d'ici la fin de saison?
Je pense que, voilà, pour l'instant, notre objectif reste le même, c'est de voilà, d'être rookie, et aussi d'essayer de faire quelques top 6, top 7, mais comme je le dis, si j'ai l'opportunité de faire un podium ou de gagner, je vais pas y manquer. Donc voilà, je pense qu'il nous manque encore un petit peu d'expérience pour déjà penser à avoir la victoire comme objectif.
Et ce serait une première.
Est-ce
depuis...
que tu penses que tu peux, oui, battre Marquez?
Ah oui,
à la régulière.
Ça c'est une vraie question aussi. À la régulière.
Pour l'instant, je pense pas. Je pense qu'il nous manque encore de l'expérience, comme je l'ai dit. Mais voilà, on se prépare en MotoGP. je crois, si je me trompe pas, c'est sa sixième année, c'est que notre première année. Donc, on se prépare et on espère que dans quelques années, je pourrai répondre oui à cette question.
Merci
très
beaucoup.
Très rapidement, j'espère.
Oui, très rapidement, on l'espère aussi, et dès cette année. Merci beaucoup, Jacques Bonne.
Merci, Jacques.
La Fédération française pour le cyclisme, d'avoir été avec nous. Fabio, reste un petit peu avec nous, parce que tu viens à peine d'arriver. El Diablo, ça c'est ton surnom. J'aimerais que tu nous expliques d'abord d'où ça vient, ce surnom El Diablo.
Ce surnom, il vient que quand j'avais 6 ou 7 ans, exactement, j'avais un casque avec un diable de... derrière le casque, et mon rival m'a appelé El Diablo, et dans cette catégorie, il y avait plus de 50 pilotes, et quand on terminait la moto, on allait jouer au foot ou aller faire un peu de vélo, et tout le monde m'a appelé comme ça, et c'est resté jusqu'à maintenant, et j'espère jusqu'à la fin de ma carrière.
Et tu disais donc à l'âge de 7 ans, c'est vrai que tout est arrivé très vite avec toi, tu as commencé la moto, on va rappeler que tu as 20 ans, hein. Tu es né en 1999 à Nice, 99 c'est aussi l'année de la dernière victoire française en moto GP, tu as commencé la moto à l'âge de 4 ans?
Oui, c'est ça, j'ai commencé à l'âge de 4 ans sur un Piwi 50, et après voilà, ça a commencé de là jusqu'à faire des championnats dans chaque catégorie, et voilà, maintenant on a accompli un de nos objectifs, et on est en MotoGP cette année.
Oui, 5 saisons hein, déjà, 2 en Moto3, 2 en Moto2 et 1, c'est ta première en MotoGP. La dernière fois qu'on t'a suivi, c'était début juillet avec la dernière course, c'était la 10e, 9e ou 10e manche, Jean-Luc. Ouais, en tout cas, on en est à la moitié maintenant.
C'est
la
9e,
ouais. Ouais, c'était la 9e. Et après ça, t'as dit, voilà, je vais bien me reposer avant de revenir début août pour le prochain Grand Prix en République tchèque. La question qu'on voulait te poser aussi, c'est savoir si tu t'es bien reposé et si tu as passé de bonnes vacances. Parce que j'imagine qu'elles sont un petit peu terminées maintenant.
Oui, ben, j'ai passé vraiment de très bons jours de vacances. J'en ai pas eu beaucoup, malheureusement, mais j'ai eu le temps de bien me récupérer, de bien préparer la deuxième partie de saison. Et surtout, voilà, je suis prêt physiquement pour arriver vraiment bien à Brno et en Autriche.
Et la prochaine course sera, Jean-Luc, le 4 août en République tchèque. On rappelle que Fabio est 8e au classement et qu'il a fait 2 podiums cette année et qu'il a également été le plus jeune poleman de l'histoire de la MotoGP.
Et oui, c'est ça qui est sidérant, hein. 3 pôles, alors que Marc Marquez en a signé 5. Marc Marquez qui domine le championnat. Alors Fabio, la première question que j'ai envie de te poser, on l'évoquait avec Jacques Bolle juste avant que tu arrives, c'est que tu commets très très peu d'erreurs. On dit toujours que l'expérience vient de ses erreurs, et si tu me permets, la seule que tu aies commis en course, en tout cas semble-t-il, hein, c'est lors du dernier Grand Prix, mais sinon, tu l'as reconnu immédiatement d'ailleurs. Comment fais-tu pour atteindre ta limite et ne pas la dépasser?
Je pense que voilà, j'ai appris énormément de choses rien qu'en roulant, à rouler avec voilà, des pilotes comme Marquez, Rossi, Vinales, et à chaque fois que je suis en piste, j'essaye d'apprendre le plus de choses possible, et c'est ce qu'on a fait cette année. Et vraiment, je sens qu'on a encore beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à apprendre, surtout en course. Et voilà, j'ai vraiment hâte de sentir dans une course que vraiment j'ai tout le potentiel pour me battre dans le top 5 et le podium.
Fabio Quartararo est avec nous dans Moteur sur RMC. Fabio, ne bouge pas, on a encore quelques questions à te poser. On fait juste un petit crochet par la Corée du Sud et les championnats du monde de natation, parce qu'il y a le 1500 mètres nage libre qui a dû commencer il y a quelques secondes. Julien Richard est sur place pour RMC. Il y a un Français, David Aubry, qui est en course. Est-ce que ça a commencé? J'imagine que oui, parce que j'entends pas mal de bruit derrière toi, Julien.
Alors, on est un peu en boîte de nuit, je te le cache pas, effectivement, salut à toutes et à tous, mais ça n'a pas encore commencé, c'est la fin de la présentation, et effectivement, David Aubry a pris place derrière le plot, la ligne d'eau numéro 1, David Aubry, qui est le premier et le seul médaillé individuel de ces championnats du monde pour l'équipe de France, qui a remporté le bronze avec le relais 400 nage libre mixte hier soir. Mais c'est pourquoi pas une chance de médaille sur cette distance. David Aubry, qui est tout jeune, 23 ans, mais qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo sur le 10 km en eau libre et en bassin, en remportant cette médaille de bronze sur le 800 mètres. Le départ dans quelques instants maintenant de cette finale du 1500, où tiendra au courant évidemment.
Ah oui,
à mesure que cette finale. Bah,
on te retrouve dans un petit quart d'heure pour l'arrivée, Julien, du côté de Gangju en Corée du Sud. Et nous reprenons notre conversation avec Fabio Quartararo. Fabio, les gens te comparent à Marquez depuis que tu as l'âge de 16 ans, depuis environ 4 ans, et ça, évidemment, c'est pas forcément évident à gérer. Je pense que la pression est devenue trop forte, ça, c'est ce que tu as dit, c'est un peu stressant. Il y a eu des moments difficiles à cause de cette comparaison pour toi ces dernières années?
Oui, il y a eu des moments difficiles parce que c'était surtout quand j'avais 15 ans, c'était pas facile à gérer. Maintenant, je me suis entouré des bonnes personnes. J'ai pris énormément d'expérience dans mes années difficiles et maintenant, j'arrive vraiment à gérer cette pression que pour l'instant, j'ai pas du tout. Alors voilà, on y travaille pour rester comme ça et rester le plus de temps possible sans pression.
Ce qui était important, Fabio, c'est de faire des courses en tête. Or, je regarde le nombre de tours effectués depuis le début de la saison. Derrière l'ogre Marquez, évidemment, 142 tours. Il y a Dovizioso, 23. Et puis juste derrière, Danilo Petrucci et toi, avec 12 tours en tête. Donc là aussi, moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'autorité avec laquelle tu as mené des Grands Prix.
Oui, j'ai réussi à mener 12 tours. Je pensais pas autant 12 tours à Seine, donc. J'ai pris énormément d'expérience aussi, savoir gérer les pneus en essayant d'être leader de la course, essayer de ne pas faire d'erreur, et on a réussi à ne pas faire d'erreur et vraiment aller vite. Donc voilà, ça c'était une course où j'ai appris énormément, et physiquement c'était vraiment difficile, donc j'ai bien réussi à gérer cette course et à faire mon deuxième podium en MotoGP.
Fabio, pendant qu'on te tient, tu as été opéré en juin du syndrome des loges. Comment ça va aujourd'hui? Parce que tu as eu l'air de t'en remettre très très vite. Hein. Tu avais repris la compétition deux semaines plus tard et tu avais obtenu à cette occasion l'un de tes meilleurs résultats, si ce n'est ton meilleur. Est-ce que ça fait vraiment partie du passé? Parce que c'est assez récent quand même, hein, début juin. Cette opération, elle est vraiment derrière toi maintenant?
Je pense que oui, il faut vraiment qu'on fasse un autre check à Brno. Mais c'est vrai que c'est pas une opération douloureuse, mais c'était super long parce que je gonflais énormément du bras, je prenais énormément de liquide, donc c'était pas douloureux mais très long à se remettre. Mais je pense que voilà, je me suis bien reposé, bien préparé, et je pense que on peut vraiment arriver à 100% pour les prochaines courses.
Allez, Fabio, ce qui est formidable, c'est que les résultats que tu fais, c'est dans une équipe privée, hein. On le rappelle quand même, avec une Yamaha qui est censée ne pas être au top de son développement, et tu fais quasiment aussi bien que Maverick Vinales, le pilote officiel, qui juste là sur les derniers Grands Prix a trouvé le ton, et en tout cas nettement mieux que Valentino Rossi, qui est forcément l'une de tes idoles, hein. Qu'est-ce que ça te fait?
Et il avait pris une photo avec Rossi quand il avait 10 ans.
Hein. Ben voilà,
c'est bien ça, Fabio. Hein.
Oui, c'est ça. C'est sûr que voilà, aussi la passe des au moins assez difficile, surtout dans les dernières courses. Mais voilà, on sait très bien que c'est une légende de ce sport qui va remonter. Mais c'est sûr que ça me fait bizarre, voilà, de dire que j'ai fait des courses devant lui. Si on m'avait dit ça il y a plusieurs années, je pense que je l'aurais pas cru. Et maintenant, voilà, je roule sur la même marque que lui et je roule dans la même catégorie, donc ça aussi c'est quelque chose que je rêvais quand j'étais petit.
Ouais, il y a une histoire assez sympa, hein. C'était après le Grand Prix d'Italie, il avait regardé tes données, Valentino Rossi, et ça t'avait un petit peu ému.
Oui, c'est sûr que voilà, je pense que Valentino regarde beaucoup les données des trois pilotes Yamaha sans compter. Donc oui, c'est sûr que ça fait bizarre que voilà, ton idole regarde comment tu conduis,
comment tu
et surtout
pilotes, ouais.
comment il peut améliorer son chrono en regardant ton tour à toi. Donc c'est sûr que c'était assez bizarre à comprendre.
Et Fabio, tu l'as gardé cette photo avec Rossi il y a 10 ans, elle est où aujourd'hui?
Alors déjà, elle est dans mon téléphone. Et,
elle est toujours dans ton téléphone.
Et mon père a gardé une copie aussi dans son magasin.
Génial, belle histoire.
C'est une formidable histoire. Alors Fabio, on va parler justement de la suite de la saison. Maintenant, tu fais partie, bon, on l'a dit, des prétendants évidemment à une victoire, mais même compte tenu de ta position au championnat, on rappelle que au classement des indépendants également, tu es deuxième, juste derrière Jack Miller, là aussi à 3 points seulement. Tu le regardes ce classement d'ailleurs là des indépendants, ou finalement non, c'est le grand classement où tu es 8e que tu regardes?
C'est vrai qu'au début, je regardais surtout le classement des rookies et pas le classement indépendant, mais vu que voilà, on est qu'à 3 points, on s'améliore énormément, donc c'est sûr qu'être pilote indépendant le mieux classé à la fin de l'année, ça serait aussi une récompense énorme. Donc notre premier rookie ici, c'est de terminer rookie. Ouais. Et voilà, on va essayer de de voilà, faire le meilleur de nous-mêmes pour être un des top pilotes indépendants.
Et puis l'équipe, hein, Petronas Yamaha, pour laquelle tu roules, qui est en tête du classement général provisoire avec 119 points devant LCR Honda. Allez, une dernière question un peu rentre-dedans forcément, Fabio. On sait que Valentino Rossi est plus proche de la fin de sa carrière que du début. On en a parlé d'ailleurs très récemment. Peut-être même en fin de saison. J'imagine qu'évidemment, si on te propose une place dans l'équipe d'usine, ça va être oui.
Ben, c'est à voir, je pense, vraiment course par course. Je pense pas déjà aux prochaines années. Je pense qu'on a déjà énormément de choses à penser pour la prochaine course. Et j'ai pas la tête encore aux prochaines années. Donc, voilà, c'est pas mon boulot de gérer les contrats. Mais en tout cas, je sais que Yamaha et Petronas nous fournissent le meilleur matériel déjà cette année.
Et on salue ton papa Étienne et Eric Mahé, hein, qui est à tes côtés. Merci beaucoup, Fabio. C'était un vrai bonheur de t'avoir. Tu reviens quand tu veux.
Merci, Fabio. Merci beaucoup. Devine que tu es très sollicité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC dans Motors. Et bonne chance pour la reprise. Donc, ce sera dimanche prochain.
Non, je dis pas ça. On dit merde.
Merde voilà, pour la reprise, merde, Fabio. Voilà. Merde. Allez, un gros c'est merde mieux pour la reprise. Le 4 août, ce sera en République tchèque et ce sera dimanche prochain. Et ce sera évidemment dans Motors. On en parlera à cette occasion, Jean-Luc. Ah, oh, c'était bien. Merci à toi d'avoir eu le téléphone.
C'est Fabio surtout qui a été très sympa de prendre quelques minutes. C'est vrai qu'ils sont très sollicités. Et excuse-moi pour la sortie, mais en sport mécanique, on dit ça. Il ne faut pas répondre, tu sais, quand tu dis ça. Adrien pourra nous le confirmer dans un instant.
Ça fait partie du truc. Bon, l'actu du jour, c'est aussi évidemment le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. On va en parler avec Adrien Tombé, avec Lucas Vignoy qui est à Hockenheim pour RMC. C'est Hamilton qui. Il est malade. Il a mal à la gorge.
Et pareil, mais alors.
Mais non, allez, on en parle.
Pas si malade pour les autres.
RMC Motors. RMC Motors. Julien Pichenet, Jean Lecroix.
Et oui, on est là avec Jean-Luc, avec Adrien Tombé, avec Lucas Vignoy qu'on va retrouver dans un instant. Il va nous faire un petit point météo. Je crois que c'est pas terrible en ce moment en Allemagne, Jean-Luc. On va voir ça, mais on va faire un petit crochet tout d'abord à Gangju. C'est en Corée du Sud pour les championnats du monde de natation. C'est la dernière journée et Julien Richard, c'est le 1500 mètres nage libre en ce moment. On en est où?
Eh bien, on en est aux deux tiers de la course, puisqu'à l'instant, David Aubry a passé les 1000 mètres de course. Alors, David Aubry, on vous le dit tout de suite, ne montera pas sur le podium, à moins d'un invraisemblable défaillance devant. Mais il sera à la lutte pour la quatrième ou cinquième place, et surtout, il est en avance sur le record de France. Donc, il va réaliser une grosse performance améliorée de près de 5 secondes. A priori, son record personnel, le record de France, mais il n'y aura pas de podium, parce que devant, ça va très, très vite pour l'Italien Paltrinieri, l'Ukrainien Romanchuk et l'Allemand Welbrock. Ces trois-là sont au coude à coude pour le podium et derrière, donc à 3-4 secondes, David Aubry, à qui il reste un peu plus de 400 mètres à parcourir maintenant dans cette finale
de 1500. Tu nous fais signe, Julien, à la fin de la course. Hein, t'hésites pas à nous couper la parole pendant qu'on sera en train de parler du Grand Prix d'Allemagne.
Ça marche.
11e Grand Prix de la saison. Ça démarrera à 15h10 et on sera évidemment sur le coup sur RMC Hockenheim. On en parle tout de suite. La grille de départ, les pronos de notre équipe. C'est parti.
RMC Motors. Dans le rétro.
On va peut-être parler de la météo d'abord, Jean-Luc et Adrien. On va aller tout de suite prendre des nouvelles auprès de Lucas Vignoy qui est à Hockenheim pour RMC. Lucas, est-ce que la pluie annoncée, elle était déjà annoncée hier, mais est-ce que la pluie annoncée depuis deux jours est là aujourd'hui?
Ouais, elle est là, on est un peu trempé puisque on a pris un orage sur la tête tout à l'heure, on était un petit peu loin des hospitalités, on n'a pas pu se cacher, se mettre à l'abri, du coup on est un peu mouillé et c'est vrai que c'est tombé très très fort tout à l'heure, ça s'est arrêté, ça a commencé à sécher un petit peu et de nouveau il pleut là sur Hockenheim, donc on va sûrement avoir un départ sur du gras mouillé ou peut-être complètement mouillé, ça va être quelque chose en tout cas.
Bon, en tout cas c'était annoncé hein, depuis quelques jours, Adrien, cette pluie, cette condition, cette météo un petit peu problématique pas pour tout le monde, il y en a qui adorent ça peut mettre le bazar, c'est ce qu'a dit Valtteri Bottas, c'est ton avis aussi?
Bah, en tout cas ça va rendre les choses très excitantes pour nous spectateurs et puis en rebattre forcément un peu les cartes avec un Vettel qui part dernier, un Charles Leclerc qui part dixième sur un circuit avec quand même de longues lignes droites, des hautes vitesses de pointe, le fait qu'il ait fait très très chaud les derniers jour, que du coup l'asphalte ne boive pas aussi bien l'eau quand il y a de la pluie, ça peut avoir des conséquences, un peu d'aquaplaning. J'espère que s'il y a voilà, s'il y a pas, s'il y a beaucoup d'eau, on va pas interrompre la course comme il est le cas aux 24 heures de Spa en ce moment même. Mais en tout cas, ça va être très excitant le Grand Prix cet après-midi.
Jean-Luc, on va dérouler la grille de départ en pole position pour la 87e fois de sa carrière, c'est ça?
C'est ça. Hein, c'est
Lewis Hamilton. Alors, c'est la première fois que ça lui arrive. Enfin, c'est lui qui l'a dit. Il a le mal à la gorge. Hein. Il a contracté un petit virus cette semaine, mais bon, ça l'a pas empêché de prendre une fois de plus la pole. Il aime bien ce Grand Prix d'Allemagne parce qu'il a un super souvenir l'année dernière. 14e sur la grille de départ et il s'impose. Et la pluie, ça le dérange pas. Il adore ça, lui. Donc, il est favori, encore une fois. Là,
Oui, bah écoute, il est bon partout, hein, comme les très grands champions. On rappelle quand même qu'il est 5 fois champion du monde, tu le disais. 87 pôles, 80 victoires, 4 victoires déjà en Allemagne, dont à Hockenheim, donc à plusieurs reprises, ainsi qu'au Nürburgring d'ailleurs, où il s'était également imposé. Et puis 4e pôle de la saison. Donc c'est vrai que lui, quelles que soient les conditions météo, de toute façon, il est excellent, il est rapide partout. Alors que malheureusement, c'était son adversaire de l'époque, il y a un an, Sébastien Vettel, chez lui, qui était parti à la faute devant son public, justement, ce qui avait anéanti en partie ses espoirs de titre d'ailleurs, hein, à ce moment-là.
On va en parler des Ferrari parce qu'on met une heure à les trouver dans la grille de
on
départ.
On va en parler,
elles sont tout en bas, mais on va écouter Lewis Hamilton, tiens, justement, sur son virus, sur les conditions, sur le Grand Prix d'Allemagne. On écoute le Britannique.
Je suis malade depuis le début du week-end. Je pense d'ailleurs que c'est la première fois que ça m'arrive à l'occasion d'un week-end de Grand Prix. D'habitude, je suis très précautionneux, mais j'ai attrapé une sorte de virus et ça m'amuse beaucoup. Je perds de l'énergie, je n'attendais pas grand-chose de cette qualification. J'ai essayé d'éviter un maximum de faire des efforts et surtout de me concentrer le plus possible. Et je ne m'attendais pas du tout à signer la pole position.
Qui sera le principal concurrent de Lewis Hamilton aujourd'hui, Adrien et Jean-Luc? Est-ce que ce sera Max Verstappen qui va s'élancer aux côtés du Britannique? Il peut être le troisième homme cette année, Verstappen.
Ah ben, je crois qu'on va pas le chercher très loin, effectivement, parce que il a démontré que la Red Bull, on le sait, la Red Bull Honda est bien sur tous les types de circuits, vraiment. Puis sa victoire en Autriche l'a conforté. Alors avec une piste brouillée, Adrien, évidemment, on va mélanger toutes les cartes. Après, ce sera une question d'adresse, évidemment, toujours sous la pluie. Et puis de stratégie, et on sait que l'équipe Red Bull est très bonne là-dessus. Ouais.
Oui, s'il pleut, c'est clair que ça sera très difficile de faire un pronostic, parce que tout simplement les stratégies sont différentes en fonction du moment auquel la pluie arrive, et puis voilà, il faudra prendre des risques, mais contrôlés. Derrière, on a un Max Verstappen qui joue pas forcément le championnat, qui pourra prendre un peu plus de risques que Lewis Hamilton. Pareil pour Pierre Gasly. Pierre Gasly, c'est un Normand, hein. Il a roulé beaucoup sous la pluie dans sa carrière.
Comment tu voudrais dire que c'est plus en Normandie, je comprends pas.
C'est un très bon.
Tu t'arranges avec les Normands.
Moi, je suis à moitié Normand, donc
tu peux y aller. Alors, c'est bon.
Mais non, c'est clair que je pense que si on a une course avec des changements météorologiques, c'est difficile d'avoir une prévision. Par contre, si c'est totalement sec, pour moi, le premier adversaire de Hamilton, c'est clairement Verstappen, parce que on a vu depuis un certain nombre de grands prix quand même le gap entre les différentes équipes de pointe se réduire et la Red Bull devenir de plus en plus performante, notamment sur les longs relais.
Eh ben, on va l'écouter, Max Verstappen. Il était plutôt content de la fin de ses qualifs. On l'écoute.
I think in Q3 was actually not too bad.
Je pense que le tour en Q3 n'était pas si mal. J'ai eu un petit problème en Q2 avec le mode qualification qui ne fonctionnait pas. Donc c'est un peu dommage de ne pas se qualifier avec les bons pneus. Nous aurions pu être un peu plus près de Lewis, mais je suis sorti large à la sortie du virage numéro 9. Donc j'ai perdu un peu de temps à cet endroit-là. Je ne pense pas que c'était suffisant de toute façon pour aller chercher la pole position. Mais nous nous serions rapprochés. Être en première ligne est une bonne chose, mais bien sûr, nous devons nous rappeler que les Ferrari étaient très rapides. Et évidemment, les problèmes qu'elles ont connus nous ont beaucoup aidés.
At the end of the day, it was good for us.
Donc, on déroule la grille de départ. Lewis Hamilton, Max Verstappen. En deuxième ligne, Valtteri Bottas. Bon, lui, il estime qu'il a quand même pas mal bénéficié de ce qui est arrivé au Ferrari. On va en parler dans un instant des Ferrari. Mais bon, il a évidemment sa place en deuxième ligne, Valtteri.
Bien sûr. Il avait des problèmes de frein, c'est ça, Lucas. Il s'est plaint de une sensibilité au freinage, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Le fait que les freins ne réagissaient pas forcément comme il l'entendait et selon les virages, que c'était un petit peu variable, c'est la façon dont il a expliqué sa contre-performance. Mais bon, il est pas loin, Valtteri Bottas. Il s'élancera du bon côté de la grille. Rien d'alarmant. Même si, bon, là, les cartes sont un petit peu rebattues. Mais c'est vrai qu'ici à Hockenheim, souvent, le côté gauche de la piste est très important, puisqu'on ne passe pas côté droit. Et donc la première et la troisième place sur la grille sont très gommées, comme tous les autres numéros impairs, bien évidemment.
Deuxième ligne, Valtteri Bottas et Pierre Gasly. On y reviendra dans un instant dans notre Frenchies Corner. Kimi Raikkonen et Romain Grosjean composent la troisième ligne. Carlos Sainz et Sergio Perez, la quatrième. Dis donc, les Ferrari, voilà, bah, ils sont toujours pas là. Charles Leclerc est en cinquième ligne et Sébastien Vettel, lui, sera dernier. Les amis, qu'est-ce qui se passe avec Ferrari en ce moment? On peut parler de guigne, de poisse.
Ça n'existe pas, la guigne en sport automobile. J'ai envie de dire que la malchance, il y a toujours des explications. Ok, il peut y avoir des choses en piste sportivement. On peut être victime de conditions de course. Mais là, en ce qui concerne la fiabilité, ok, il y avait la chaleur, peut-être bien plus importante qu'ailleurs. Peut-être la première fois comme ça de l'année, en tout cas. Mais ça, chez Mercedes et chez les autres, on l'avait prévu.
Il fait chaud pour tout le monde. Hein,
puisque les problèmes, on les a pas. Voilà, les problèmes, on les a pas. Il fallait les anticiper à un moment donné. Et là, que ça soit le problème de pompe à essence pour Charles ou les problèmes d'alimentation, je crois.
Ouais, ça parle de turbo.
De turbo.
Ouais, voilà, alimentation du turbo.
Pour Vettel, c'est des choses quand même qui sont pas acceptables à ce niveau-là de compétition. Donc chez Ferrari, il faut se remettre en place.
Pour prendre un tout petit peu de recul, Lucas, je sais que c'est toujours difficile quand on est dans le bain, mais moi, de là où je peux le dire, je me demande si on n'a pas troqué, je l'avais déjà évoqué, un excellent directeur technique de Ferrari contre un mauvais patron d'équipe, Mattia Binotto, tu me vois venir, qui a concédé qu'il y avait des problèmes au sein de l'équipe et que le process de fiabilisation n'est pas en place. Là, c'est incroyable de voir une équipe comme Ferrari faire perdre à ses deux pilotes les chances de qualification.
On reparle
de... c'est assez incroyable. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai que c'est assez incroyable, mais... C'est vrai qu'on a discuté avec Mattia Binotto, c'était vendredi soir, ouais. et ce qui est dingue, c'est qu'il était plutôt content et il a même parlé de la fiabilité. Alors, est-ce qu'il s'est porté justement l'œil, je sais pas, mais
oui, c'est sûr que
les oui, mais les deux voitures dans la même qualification à 10 minutes d'intervalle. Enfin, franchement, moi, j'en ai pas le souvenir.
Bah non, puis la liste est longue. Hein, si on revient depuis le début de la saison, enfin, on a pas le temps là, mais Charles qui perd sa victoire également suite à un problème technique. Leclerc qu'on parvient pas à envoyer sur la piste en Autriche. Enfin bon, on va s'arrêter.
On l'écoute dans un instant, Charles Leclerc. On va également se demander si ils peuvent pas revenir. Il y en a qui le pensent, un retour en force des Ferrari aujourd'hui. Mais on va tout de suite aller à Guangzhou pour les championnats du monde de natation. Le 1500 mètres nage libre vient de se terminer. À quelle place a terminé David Aubry, Julien Richard?
Au pied du podium, le chocolat pour David Aubry, mais il a un bon goût ce chocolat. La quatrième place, médaille, pas de médaille pour Aubry, mais un record de France explosé de 4 secondes, 14 minutes, 44 secondes, 72 centièmes. Il a enlevé 4 secondes et 18 centièmes à l'ancien record de France qui appartenait à Damien Joly, son coéquipier d'entraînement à Montpellier avec Philippe Lucas qui est dans les tribunes, qui n'a pas réussi à se qualifier pour cette finale du 1500, une finale exceptionnelle avec la victoire de l'Allemand Welbrock, vainqueur. Et ça, c'est historique, du 10 km d'eau libre et du 1500, ça n'était jamais arrivé. Et on soulignera juste pour terminer les mondiaux vraiment exceptionnels de David Aubry, qualifié pour les Jeux de Tokyo sur le 10 km, médaillé de bronze sur 800 mètres, quatrième du 1500 à seulement 23 ans. Je pense qu'il a pris date pour de grandes performances dans le futur et pour la natation française. C'est une très bonne nouvelle.
Merci Julien Richard, envoyé spécial d'RMC à Guangzhou pour les championnats du monde de natation. Vous écoutez Motors, on est ensemble jusqu'à 14h et on évoque ce Grand Prix d'Allemagne qui s'élancera tout à l'heure à 15h10, 11e Grand Prix de la saison. Jean-Luc, je sais, je t'ai entendu faire tes paris tout à l'heure, que oui. Tu penses que Charles Leclerc peut faire un coup aujourd'hui. Vous êtes plusieurs à le penser, hein, que les Ferrari pourraient éventuellement revenir en force cet après-midi à l'occasion du Grand Prix, malgré leur mauvaise qualif.
Écoute, c'est un pari. De toute façon, on répète, Hamilton l'a emporté l'an dernier en partant 14e. Donc c'est possible.
Est-ce qu'Hamilton est capable de faire? Tout le monde est capable de le faire?
Non. Évidemment, mais comme l'a évoqué Adrien et Lucas tout à l'heure, c'est une question après d'opportunisme, d'opportunité, de stratégie et de réaction. Or, on peut pas toujours se rater quand même chez Ferrari. De temps en temps, on va bien tomber, en tout cas, on l'espère. D'autre part, Charles est remonté comme une pendule, c'est peu de le dire. La machine était dominatrice lors des séances d'essais libres. On n'a pas roulé sur le mouillé, mais c'est valable pour tout le monde. Oui, moi je crois que c'est possible. Et puis cette première victoire, on l'évoquait avec Fabio Quartararo, elle va arriver à un moment ou à un autre pour Charles Leclerc. Pourquoi pas là, avec des circonstances un peu particulières.
Et même pas forcément, même dans des conditions normales, je vais aller plus loin, si la voiture est aussi performante qu'elle l'était par exemple à Bahreïn, là où il avait on lui avait
dominé le Grand Prix.
Il avait dominé le Grand Prix et le week-end globalement, comme un peu à Hockenheim.
Comme en Azerbaïdjan, à part la petite erreur qu'il a commis.
Effectivement, avec ce niveau de performance là, égal à celui de Bahreïn, il va pouvoir remonter Charles. Donc avec une bonne stratégie et pas d'erreur, et une bonne fiabilité, il peut aller au bout.
On va l'écouter, Charles Leclerc qui partira dixième. Le Monégasque s'est exprimé hier après ses qualifications. Un petit peu difficile, on l'écoute.
C'est difficile parce que c'est une voiture déjà, c'était difficile, mais alors là les deux c'est encore plus compliqué, donc je tâcherai de faire une bonne course demain, mais ça va être compliqué. On est triste parce qu'on pouvait faire très bien aujourd'hui et malheureusement c'est une opportunité de rater, mais on va essayer de se rattraper demain.
Se rattraper demain, et demain c'est aujourd'hui, c'est dans une heure et demie que s'élancera ce 11e Grand Prix de la saison. Il y a encore quelques cas qu'on n'a pas évoqués. Pierre Gasly, Romain Grosjean, c'est notre Frenchies Corner, on en parle dans un instant sur RMC. Vous écoutez Motors, nous sommes ensemble avec Adrien Tambay, Jean-Luc Roy et Lucas Vinoy qui est sur place jusqu'à 14h. On revient tout de suite.
RMC Motors. RMC Motors, Julien Pichenet, Jean-Luc Roy.
Jusqu'à 14h, c'est la dernière ligne droite. Jean-Luc Roy est là, Adrien Tambay est là, Lucas Vinoy est là sous la pluie sur place parce qu'il va peut-être le voir pendant tout le Grand Prix, ce qui pourrait animer, pimenter encore
davantage. Ou une partie, ce qui sera encore mieux parce qu'on aurait du suspense, tu vois.
C'est ce qui est arrivé l'année dernière, non ? Il s'était mis à pleuvoir pendant la course. Hein.
Oui, c'est ça. Là, ça peut être l'inverse. Par exemple, si on partait sur le mouillé et que ça allait vers le sec, on pourrait rigoler un peu là.
On va parler des Français. Est-ce que Pierre Gasly a une petite chance de terminer sur le podium, ce qui serait une première ? C'est notre Frenchies Corner tout de suite.
RMC Motors, le Frenchies Corner.
Ah, j'aime bien ce petit jingle. Bah oui, est-ce que Pierre Gasly peut terminer sur le podium? Quand on regarde la grille de départ, il est en deuxième ligne, aux côtés de Valtteri Bottas. Pierre Gasly qui a connu une drôle de semaine, puisque vendredi, il a cassé sa monoplace pendant la séance d'essai numéro 2. Deux semaines après le choc entre la Red Bull de Verstappen et la Ferrari de Vettel, ça tombe mal peut-être pour Red Bull. Ça peut créer des tensions, ça, entre Gasly et la direction de Red Bull, Adrien?
Bah forcément, en tout cas, ça met un peu plus de pression, malheureusement, sur les épaules de Pierre. On se souvient de ce qui s'était passé en essai hivernal, même à Barcelone, où Pierre avait détruit une monoplace et où d'ores et déjà avant le début de la saison, on commençait à mettre la pression à Pierre en disant qu'on était en manque de pièces et que c'était un peu à cause de ça. Maintenant, comme Pierre le disait, un pilote de course, il va à la limite et de temps en temps ça arrive, et là c'est arrivé en essai libre. Il fallait mieux que ça arrive en essai libre, ouais, qu'en qualif ou qu'en course. C'est pas gratuit parce que voilà, ça coûte de l'argent. Et puis on perd du temps et du temps de développement et les nouvelles pièces sont difficiles à amener à temps ensuite, mais quelque part ça coûte moins cher qu'en qualif ou qu'en course. Maintenant à lui de tout mettre dans l'ordre aujourd'hui en course. Hier il était très très proche de son coéquipier à un dixième seulement. Bon, son tour a été annulé parce qu'il est sorti un peu de la ligne de course, et puis au final ça change pas sa position, il est quatrième sur la grille. Et avec ces conditions là un peu piégeuses et puis la météo incertaine, est-ce qu'il a la chance d'aller sur le podium? Oui, clairement, et même mieux, même plus si affinité, parce que dans ces conditions-là, on ne sait pas ce qui peut se passer.
Alors, on va l'écouter, Pierre Gasly, il parle justement de ces conditions, c'était hier, juste après les qualifs.
On va regarder devant, on va voir. Par quatrième, c'est une bonne place pour le départ. On part avec les softs. Demain, honnêtement, je pense qu'il va se passer plein de choses. Au vu du temps, on pense qu'il va pleuvoir à certains moments de la course. Donc, je pense que ça devrait être assez excitant. Il va falloir être intelligent. Mais voilà, on part bonne qualif, on a une bonne place. Donc, on va attaquer demain.
Ça va être assez excitant, promet Pierre Gasly.
Ça, c'est sûr.
Jean-Luc, il a réalisé des super qualifs, Pierre Gasly.
Ah bah, excellente. Écoute, Adrien l'évoquait il y a un instant, en termes d'écart de performance par rapport à Verstappen, qui est évidemment sa référence absolue, il n'est pas loin du tout. Bon, là, en qualif, il y avait un peu plus, il y avait 4 dixièmes, mais 4 dixièmes dans les conditions dans lesquelles il l'a fait, puis après, il faut le bon tour, etc. Et après, être sorti assez violemment quand même, hein, dans le stadium, dans le dernier virage, en décrochant. Bon, là aussi, bien sûr qu'il a commis une erreur, il s'est tout de suite excusé auprès de l'équipe, mais bon, comme il le disait, comme on le sait tous, un pilote de course, c'est ça, hein, de temps en temps, il est à la limite et même un peu au-delà. Donc, l'important, c'est que il est sur la dynamique de Silverstone, où il a réalisé sa meilleure performance de la saison pour Red Bull, et là on l'a vraiment vu dans le coup, Pierre Gasly. Donc on peut espérer que dans ce Grand Prix d'Allemagne, forcément à rebondissement, forcément, compte tenu des conditions météo. Bah, il a une très belle carte à jouer. Oui, le podium, on peut vraiment y croire. Oui.
Est-ce qu'il joue sa place chez Red Bull en 2020, ce week-end, Pierre Gasly?
Alors, c'est Lucas peut-être qui a plus de bruit sur la silly season que nous, mais c'est évident qu'il est de toute façon sur un siège éjectable. On connaît la stratégie de Red Bull et la politique de Red Bull qui est sans pitié, le mot est faible. Maintenant, s'il démontre, et il est en train de le faire, qu'il a pris la mesure de sa monoplace, qu'il n'est pas très loin de son leader Verstappen et qu'il apporte des points à l'équipe, parce que pour le championnat maintenant, Ferrari n'est pas si loin que ça au classement constructeur, donc c'est ça qu'on vise aussi. On lui donne une bonne voiture, il en fait bon usage, bah, ma foi, oui, il peut sauver sa place.
Mais moi, je pense surtout que maintenant, ça sera de la politique plus qu'autre chose quand on parle de place chez Red Bull l'année prochaine, parce que de toute façon, ça fait 2-3 Grands Prix maintenant que avec une voiture qui est plus proche de celle de Max Verstappen avec les mêmes développements que son coéquipier, il est dans le coup. Il est à 4 dixièmes, mais c'est parce que son tour à 1 dixième a été annulé. Pour moi, il est presque aussi vite que Max Verstappen. S'il fait pas d'erreur, la place, il la mérite. Maintenant, si chez Red Bull, on a envie de le changer, c'est peut-être pour d'autres raisons aussi. Faudra trouver des raisons à un moment donné. Ça sera de la politique s'il y a un choix. Pour l'instant, pour moi, il fait le boulot.
Ouais. Lucas Vigneault a peut-être des infos sur l'ambiance actuelle au sein de Red Bull, Lucas.
Non, il joue pas sa place ce week-end. Après, ce qu'il faut dire, c'est que sur le marché, il n'y a pas 150 pilotes non plus. Pour courir en Formule 1, il faut avoir 40 points sur la super licence. Et les pilotes qui ont 40 points sur la super licence, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Mick Schumacher, mais Red Bull n'a aucune raison de prendre Mick Schumacher. Donc voilà, pour l'instant, Pierre Gasly fait du bon travail. Il était 10e en France, 7e en Autriche, 4e à Silverstone le week-end dernier. Il est sur la pente ascendante. Je pense honnêtement que s'il venait à claquer un podium ici, il ferait très très forte impression du côté de chez Red Bull, surtout dans des conditions compliquées, et il marquerait beaucoup plus que les seuls points par exemple d'une troisième place.
On va évoquer Romain Grosjean qui est volant de sa Haas et sixième, objectif peut-être aussi terminé dans les points pour Romain Grosjean. On écoute le français, c'était aussi juste après les qualifs.
Ah, c'est top, mais j'aime pas ce genre de statistiques. Je préférais quand vous me disiez 16 Q3 sur les 18 derniers Grands Prix. Donc là, content avec ça, content avec le week-end jusque-là. On a fait du bon travail hier. Demain, on va essayer de faire une belle course. Cette année, à certains moments, on a eu des bonnes qualifs et des courses plus compliquées. J'espère que ça sera pas ça demain. Et déjà, on va voir la météo, mais hier, on était plutôt content. Donc on va continuer à travailler, continuer à analyser le tout et voir ce qu'on peut faire.
Oui, voilà, parce que je précise, il parlait de statistiques.
Oui, c'est sa première Q3. Voilà.
C'est sa première Q3 depuis le Grand Prix d'Espagne. Alors, objectif, prendre des points.
Ah bah oui, plus à l'évidence, ça, ouais. plus que ça. Quand on part sixième sur la grille, avec ces circonstances, on l'a dit, qui risquent d'être mouvementées, je pense que l'objectif, c'est de terminer au moins à sa place, terminer au moins sixième, voire mieux, dans le top 5. Ce qui, effectivement, lui permettrait, comme l'an dernier, de sauver sa première demi-saison. Parce qu'on rappelle que l'an dernier, il était dans une situation également catastrophique. Alors je sais, il fait de l'autosuggestion, il a raison d'ailleurs, hein. Mais effectivement, il est en danger, c'est très clair. Surtout après l'accrochage entre les deux pilotes Haas dans le premier tour du Grand Prix de Silverstone, où là, je crois que Gunther Steiner, il ne décolère pas depuis. Donc, effectivement.
Ça a soufflé fort.
Ça a soufflé très fort.
Ouais, oui. Lucas,
les deux sont en observation.
Tu as des infos là-dessus?
Ah bah, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a eu une entrevue avec Gunther Steiner à la suite de ce Grand Prix et de cet accrochage surtout. Magnussen et Grosjean ont été convoqués par le responsable de l'écurie américaine Haas et ça s'est très mal passé puisque Kevin Magnussen n'a pas accepté les remontrances de son patron et a quitté la réunion après 5 minutes en claquant la porte.
Ah oui, carrément.
Donc belle ambiance chez Haas, mais on connaît Kevin Magnussen, ce n'est pas un tendre.
Ouais, non, c'est un pilote rugueux.
Il dit ce qu'il pense et il ne fait pas dans la politique.
Non. Bon, c'est vrai que dans tous les cas, puisque là on s'intéresse au cadre de Romain Grosjean, bien sûr, il faut qu'il obtienne un très bon résultat. C'est comme ça qu'il avait sauvé sa saison l'an dernier. Donc c'est évident que là, avant le break, et je rappelle le break, c'est après le Grand Prix de Hongrie, hein, là il y a 4 semaines qui vont s'écouler. Il faut absolument que Romain Grosjean, qui n'a que 2 points au championnat, ce qui est très peu, contrairement à Magnussen qui en compte déjà 14, il faut qu'il amasse des points et obtienne un bon résultat.
Il s'annonce vraiment excitant ce Grand Prix avec Lewis Hamilton qui s'élancera en pôle à 15h10. Ce sera à suivre tout à l'heure sur RMC avec Max Verstappen qui pourrait aussi, pourquoi pas, lui shipper le titre aujourd'hui avec Gasly et Grosjean qui doivent terminer dans les points avec Charles Leclerc qui, selon toi, Jean-Luc, et selon toi aussi, Adrien, peut réaliser un concours avec Vettel qui va tenter de faire une folle remontée. Comme l'avait
fait son petit frère qui s'est imposé en F4 ce matin, le petit frère de Charles Leclerc. Arthur Leclerc s'est imposé, donc la journée a bien commencé pour les Leclerc. Ça
peut aller. Et petite information qui peut aller dans le sens de Sébastien Vettel. En 2000, Rubens Barrichello était parti 18e ici à Hockenheim et s'était imposé avec bien évidemment de la pluie. Donc peut-être qu'à domicile l'Allemand peut créer un exploit exceptionnel, qui sait.
Rassure-nous, ce Grand Prix attentivement. Il pleut toujours, Lucas, rassure-nous.
Il pleut toujours, et sans discontinuer depuis le début de Motors.
Oui, donc, bah, il pleuvra peut-être pendant tout le Grand Prix, en tout cas très certainement au début. Il nous reste 4 minutes pour le Radio Paddock et pour évoquer peut-être les Renault, un petit mot des Renault.
Oui, bien sûr. Hein. Bah, les Renault, écoute, c'est pas mal, peut mieux faire, on va dire. Nico Hülkenberg qui atteint la Q3, qui se qualifie 9e. Bon, 9e, c'était facile puisque Charles Leclerc n'a pas roulé, donc sinon il aurait été 10e, probablement. Et puis derrière, Daniel Ricciardo, pas loin du tout en temps, mais qui se retrouve dans la Q2, 13e. Bah, on va dire un résultat à confirmer pour Renault qui, on le répète, hein, se bat théoriquement pour la 4e position au classement constructeur, au championnat. C'est ça l'objectif. Et devant, bah, y a quand même McLaren avec 60 points et Renault n'en compte que 39. Donc la tâche est difficile.
Lucas Binois, c'est la fête autour de toi là. Tu es dans la fanfare?
Dans la fanfare, non, mais pas très loin en effet. Ouais, c'est la fête. Il y a énormément de supporters allemands. Vous le savez, c'est peut-être la dernière édition du Grand Prix d'Allemagne ici à Hockenheim. Le modèle économique ne permet plus à Hockenheim de répondre aux exigences, en tout cas de la Formule 1. Donc il y a une grande fête. Il y a aussi à peu près 5000 supporters bataves qui sont là pour pousser Max Verstappen. Donc oui, c'est la grande fête. Malgré la pluie. Et pour revenir sur les Renault, à noter qu'en Q2, il y avait seulement 33 millièmes entre la 8e et la 13e place. Le midfield est plus serré que jamais en Formule 1.
Merci Lucas, on te retrouve tout à l'heure sur RMC pour suivre cette course à Hockenheim, ce 11e Grand Prix de la saison. Il nous reste 2 minutes 50 précisément pour le Radio Paddock, tellement raccourci qu'on va même pas mettre le jingle, désolé Jean-Luc, mais on va commencer tout de suite avec l'IndyCar qui poursuit sa saison sans interruption avec l'épreuve sur le circuit routier de Mid-Ohio. C'est aux États-Unis
et puis le championnat IndyCar, là aussi il est extrêmement soutenu, hein. C'est le 13e rendez-vous de la saison et il y aura juste derrière ensuite le 14e. On continue directement avec Pocono, qui est un grand triovale. On va commencer par le circuit de Mid-Ohio, qui est un circuit américain à l'ancienne, hein, comme on les aime, Adrien. Là, c'est un circuit routier où il faut beaucoup de courage pour faire une pole et c'est Will Power qui a été le plus courageux avec sa Dallara du team Penske. Il devance Alexander Rossi du team Andretti. Alors il y a très peu d'écart toujours en IndyCar. La bonne nouvelle c'est que derrière Joseph Newgarden, le leader du championnat, on va y venir au classement du championnat, Newgarden étant en tête depuis le dernier Grand Prix, on a Simon Pagenaud, donc le pilote français, qui se bat lui aussi pour le championnat. Il est 3e pour le moment. Donc je rappelle les positions du championnat avec Newgarden 487 points, Alexander Rossi, donc on a quasiment l'ordre de départ, hein, 458 points, et puis Simon Pagenaud 429, Scott Dixon, néo-zélandais et donc 4e, et on n'oublie pas Sébastien Bourdais, puisque Sébastien Bourdais est 5e sur la grille de départ de Mid-Ohio. Il a déjà brillé dans le passé, et lui il défend une position dans le top 10, puisqu'il est 10e au championnat avec 255 points. En tout cas, l'IndyCar varie, on l'a vu, tout petit ovale, c'était la course précédente dans l'Iowa, vraiment un ovale qu'on couvrait en 18 secondes, tu vois, il n'y a pas moins. Là, c'est un circuit routier et paf, après le grand ovale, le grand tri-ovale de Pocono, ça veut dire que bah, les pilotes du championnat américain d'IndyCar, ils doivent effectivement, tiens, c'est un circuit et c'est un championnat que Adrien aurait adoré, là, parce qu'il faut des qualités de pilotage, je peux dire, extrêmement variées.
Ouais, c'est clair que c'est de toute façon des monoplaces très proches les unes des autres et quasiment un championnat monotype et d'une course à l'autre, on ne sait pas qui va s'imposer. C'est des vraies voitures d'hommes très intéressantes à piloter.
13h57 dans un instant, l'intégral sport, pouvez aller garer vos motos ou les changer.
On va garer nos motos.
Ouais, faites attention parce que le Tour de France passe juste à côté d'RMC cet après-midi. On vous retrouve tout à l'heure pour le Grand Prix. Tu peux ranger tes papiers.
Je range.
J'ai jamais vu ça. Il y a un nombre de papiers sur la table.
J'ai besoin. Moi, c'est psychologique.
Là, pour vous donner un ordre d'idée, je sais pas. Il y a 300 feuilles, 400 feuilles, c'est incroyable. Jean-Christophe Brouet.
Jean-Christophe Brouet,
il n'a jamais vu ça non plus. Salut Jean-Christophe.
Non mais c'est incroyable, salut Julien. Enfin, je veux dire, moi j'ai envie de travailler, là je peux pas travailler avec Jean-Luc.
Bah non, parce qu'il en met partout, en plus on en a partout sur nous des papiers. Enfin bref. Tu prends le relais pour l'Intégral Sport.
Exactement, l'Intégral Sport dans quelques instants où nous reparlerons du Tour de France, la dernière étape aujourd'hui. Nous parlerons évidemment de ce Grand Prix d'Allemagne.
J'espère bien.
Ce sera sous 40 minutes avec toute la Dream Team F1. Une course absolument incroyable aujourd'hui à suivre en direct en intégralité sur RMC à partir de 15h10, les championnats du monde de natation également en Corée du Sud. Bref, un beau programme. À tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC Motors.